Bonjour, ce que je n'ai pas encore salué, je suis encore très reconnaissant d'avoir à nouveau l'occasion de prêcher et c'est un grand honneur de prêcher dans l'église dont je suis maintenant membre et avec ma nouvelle famille. Pour vous prévenir de tout ce qui va suivre, j'ai appris ces dernières années qu'il existe de nombreuses différences de styles de communication entre les Américains et les Français, bien sûr. Alors j'espère que je ne passerai pas trop pour une brute américaine pendant ce sermon. Je sais que nous avons tendance à être beaucoup plus directs et je suis encore en train d'apprendre ma politesse française. De plus, comme la dernière fois, je vais lire mon message, bien sûr, afin de ne pas me perdre à cause de mon mauvais français. Et mon message sera sûrement un peu plus court, je pense, que celui des autres, mais ça ne devrait pas trop vous déranger. Mais j'ai écrit ça avant et maintenant j'ai 16 pages. Donc... Attention. Dans mon ministère aux États-Unis, j'avais parfois la mauvaise habitude de choisir des livres et des passages de la Bible pour prêcher en fonction de ce que je jugeais être une faiblesse dans l'Église. Avec ma vision très, très limitée, je pensais qu'il était de ma responsabilité d'utiliser l'Écriture comme un marteau pour remettre les clous en place. Je pensais que je serais comme Paul lorsqu'il a écrit la lettre aux Galates, où il réprimande l'Église pour son égarement, comme il a fait en Galates 1-6, ou même Jude, où il déclare qu'il aurait préféré écrire sur des choses plus heureuses, mais qu'il a ressenti le besoin de corriger plusieurs erreurs, comme il a fait en Jude 3. En revanche, le Seigneur m'a rappelé encore et encore et encore que le rôle d'un prédicateur soit de simplement proclamer ce qu'il a déjà dit et qu'il fera le travail nécessaire pour convaincre les gens de leur péché et corriger toutes les erreurs qui peuvent se trouver dans une église. Et j'ai aussi été béni de voir l'exemple des anciennes et des autres prédicateurs ici qui laissent la parole de Dieu parler d'elle-même. J'aimerais commencer une série de messages sur le livre des Philippiens. Et j'ai choisi prêcher Philippiens parce que, un, personne d'autre ne l'a fait récemment, et deux, parce que c'est l'un des livres les plus agréables, les plus joyeux et pleins d'espoir de tout le Nouveau Testament. Et ce sont toutes les qualités sur lesquelles je devrais passer plus de temps, mais vous aussi, bien sûr. Nous allons l'aborder de manière exégétique et systématique, donc avec notre programme de prédication actuel. Cela peut nous prendre un an ou deux peut-être, mais je sais que le Seigneur parlera à travers sa parole, peu importe le temps qu'il faudra. Donc, lisons ensemble le passage. J'utilise aujourd'hui le second 21, chapitre 1 de Philippiens, versets 1 à 11. Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je ne passerai pas un temps exorbitant à expliquer le contexte de cet épître maintenant, car la plupart des choses seront clarifiées au cours de notre progression dans le livre. Mais Il est important de comprendre, avant de commencer, que l'église de Philippe est le résultat du ministère personnel de l'apôtre Paul. Si vous vous rappelez l'histoire de l'appel de Macédoine dans Actes 16, quand Paul a eu la vision d'un homme l'appelant à Macédoine, cette église est le résultat de cet appel. À Philippe, Paul a rencontré et partagé l'évangile avec la première convertie qu'il était appelée Lydie, a chassé les démons d'une esclave et a assisté à la conversion d'un geôlier et de sa famille alors qu'il était emprisonné, tous en Actes 16. C'est une église que Paul connaissait intimement et avec laquelle il avait travaillé dès le début de son existence. Il est plus que possible qu'il ait connu personnellement chacun des membres de l'église, de sorte que Paul leur écrit, on peut vraiment entendre l'amour et l'affection dans ces mots. Nous pouvons d'ailleurs le voir tout de suite au verset 1, où on remarque quelque chose d'assez peu ordinaire pour une épître de Paul. Ce n'est pas le fait que Paul écrive avec son collègue et fils dans la foi, Timothée, qui est étonnant. Il s'est souvent servi de Timothée pour transmettre ses lettres et exécuter ses souhaits. Ce n'est pas non plus qu'il appelle les chrétiens de Philippe saints, un mot dont nous parlerons plus en détail dans un instant, puisque Paul n'utilise jamais le mot chrétien, mais plutôt saint 40 fois au cours de ses épîtres. Non, c'est qu'ici, il inclut aussi spécifiquement les responsables et les diacres, ce qu'il n'a jamais fait dans aucun autre livre. Il n'y a pas de raison définitive qui expliquerait pourquoi Paul les inclut dans ses salutations uniquement dans cette lettre, mais bien sûr, les théories abondent, comme tous les points de doctrine ou théologie. Nous pouvons cependant être certains qu'il ne suggère pas que les responsables et les diacres existent en dehors du domaine du chrétien moyen, comme une sorte de classe spéciale. Et après une longue étude de ma part, mon théorie est que, puisque ce livre est en fait si positif et si rempli de bénédictions, Paul a voulu s'assurer qu'il incluait absolument toutes les personnes impliquées dans l'Église, parce que absolument toutes les personnes impliquées dans l'Église ont contribué à lui apporter une telle joie. Et nous apprendrons plus tard dans le livre ce qu'ils ont fait exactement pour le rendre si heureux avec eux, mais nous garderons cela pour la prochaine fois. Dans d'autres épîtres, Paul corrige une erreur ou une fausse doctrine. C'est le plus souvent une influence extérieure qui pervertit la vérité et non les anciens établis, de sorte qu'il ne s'adresse pas aux anciens et ne les désigne pas comme eux, ceux qui ont besoin d'être corrigés, à moins que cela ne soit nécessaire. Vous remarquerez également que Paul ne mentionne pas ici sa position d'apôtre comme il le fait dans les autres épîtres. Un commentateur américain, il s'appelle Steve Lawson, a suggéré qu'étant donné qu'il s'agit d'une lettre si positive, Paul n'a pas besoin d'évoquer ses qualifications pour renforcer ses paroles. Voilà donc la salutation. Et je tiens à préciser que ce passage, comme beaucoup d'autres dans le livre des Philippiens, ne contient pas nécessairement un commandement explicite à suivre. À cet égard, je suis un peu jaloux de Bill, qui prêche à travers les proverbes, où presque chaque verset contient un enseignement clair et applicable. Non pas qu'il soit plus facile de prêcher à travers les proverbes, mais si je vous disais que Dieu veut que vous cessiez de vous démener pour gagner plus d'argent, ou vous éleviez vos enfants selon les principes bibliques, vous diriez « Oui, c'est juste là, c'est écrit là ». Mais notre passage est un peu différent. Au lieu d'ordre direct d'obéissance, Paul expose ici quelques principes qu'il me semble utile de discuter et d'appliquer. Vous connaissez peut-être une certaine méthode d'étude de la Bible qui utilise plusieurs questions pour décrypter ce qu'un passage dit et essaye de nous enseigner. En anglais, il s'appelle « the sword method », mais en français, « méthode de l'épée ». Vous connaissez? Oui? Non? Mais cette méthode consiste à se poser les questions suivantes. Que dit ce passage sur Dieu? Que dit ce passage sur l'homme? Y a-t-il un péché à éviter? Y a-t-il un commandement à respecter? Y a-t-il une promesse à laquelle il faut faire confiance? Et ce qui me semble le plus pertinent pour nous aujourd'hui, y a-t-il un exemple à suivre? Dans ce petit passage, nous trouvons deux concepts que Paul célèbre et encourage aux Philippiens. Un, il célèbre leur partenariat dans l'Évangile. Et deux, il les encourage à avoir un amour les uns pour les autres qui soit enraciné dans le discernement. Tels sont les principes à apprendre et les exemples à suivre. Puisque nous avons déjà abordé l'introduction, passons en versets 3 à 8. Et je vais lire encore versets 3 à 8. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dans cette section, Paul est plutôt expansif quant à ses sentiments pour l'Église de Philippe. Au-delà de l'application évidente que nous pourrions en faire, à savoir prier régulièrement pour ses proches, nous voyons ici un autre thème encore plus crucial, je pense. C'est le partenariat. J'ai un peu d'exemple. J'ai en fait un ami avec qui j'ai servi dans une église au début de mon ministère aux États-Unis, qui était tellement touché par ce concept de partenariat dans l'Évangile qu'il voulait arrêter d'utiliser le terme membre dans l'église et utiliser à la place le terme partenaire. Et cela n'a pas vraiment marché pour plusieurs raisons. Mais son idée était que le mot membre implique, au moins dans le sud des États-Unis, que quelqu'un vient simplement regarder ce que se passe à l'église le dimanche sans vraiment participer au travail de l'église. Mais avant que Paul ne parle vraiment de ce à quoi ressemblait cette participation, il dit qu'il est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si c'est le cas en France, mais j'ai appris pendant que j'étais pasteur aux États-Unis que Philippiens 1:6 était probablement l'un des versets les plus mal compris de la Bible. Beaucoup de gens croient que ce verset fait référence aux personnes qui ont entendu l'Évangile à un moment donné de leur vie et que nous devrions avoir l'assurance qu'elles seront sauvées. Mais ce n'est pas le cas. Bien que nous n'ayons pas examiné le contexte de manière exhaustive, nous savons simplement en lisant les cinq premiers versets de ce passage que le vous auquel Paul s'adresse sont les saints de Philippe. Et puisque nous rejetons la conception catholique romaine erronée de la notion de saint, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une classe de super-chrétiens et que toutes les personnes qui sont déjà des saints n'ont pas besoin d'être sauvées à nouveau. Au contraire, Paul dit ici qu'il est convaincu, comme il a déjà écrit aux Romains, que le fruit de leur salut résultera en leur glorification éventuelle. Il dit ça à Romains chapitre 8, que Dieu qui les a sauvés les tient fermement dans sa main. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr que ce verset particulier soit aussi mal représenté ici qu'il est aux États-Unis, mais je me suis dit que nous pouvions éclaircir ce point. Bref, nous voyons ici une participation active dans le cas des Philippiens. Paul dit même que dès le début, les Philippiens ont été avec lui, le soutenant en prison et défendant la vérité de l'Évangile. Il dit ça en versets 5 et 7. Je voudrais aussi vous encourager, comme l'a remarqué mon ami qui voulait changer le monde en remplaçant le mot membre par partenaire, que ces versets impliquent que le vrai travail chrétien est un partenariat avec d'autres croyants et pas seulement un sport de spectateur. Ce n'est pas comme si les anciens participaient à une course de F1 et que nous étions assis sur la banquette arrière. Nous le savons parce que participer à la même grâce pendant que Paul était enchaîné ne signifie pas simplement prier pour lui lorsqu'il se souvenait de lui ou même simplement lui rendre visite. Comme c'est le cas dans de nombreuses prisons du monde aujourd'hui, au premier siècle, il incombait aux proches d'un prisonnier de prendre soin de lui pendant son emprisonnement. La nourriture, les vêtements et tout ce dont un prisonnier avait besoin devaient être fournis par la famille ou les amis du prisonnier. Nous savons que Paul a demandé à Timothée des livres et même des vêtements lorsqu'il était emprisonné à Rome. On a vu ça de Timothée. Et plus loin dans cette lettre, Paul mentionne que l'église de Philippe a été la seule à subvenir à ses besoins pendant tout ce temps, utilisant une fois de plus l'expression « partenariat ». En subvenant à ses besoins, l'église de Philippe a joué un rôle essentiel dans le ministère de Paul. C'est grâce à cette église et à son soutien financier que Paul a pu accomplir le travail auquel il était appelé. Tous les missionnaires qui sont ici ou qui ont fait partie de cette église, comme Teddy et Christine, peuvent vous dire que les églises qui nous soutiennent sont ce qui nous maintient littéralement en vie. Sans le don généreux des églises américaines que ma famille va visiter la semaine prochaine, je n'aurais pas été en mesure de préparer ce message aujourd'hui, parce que grâce à leur partenariat, je pourrais leur dire « ma famille peut manger » et je peux passer mon temps à étudier la parole et prier et me préparer au ministère en France. Ainsi, les saints de Philippe ont participé à la même grâce que Paul en le soutenant là où il était emprisonné, mais aussi en étant en rempart pour l'évangile là où il se trouvait. Le verset 7 en dit que les Philippiens ont participé à la défense et la confirmation de l'évangile. Le mot « défense » ici est le même que celui utilisé dans 1 Pierre 3, 15, qui peut être familier à beaucoup d'entre vous. « Mais dans vos cœurs, honorez le Christ Seigneur comme saint, en étant toujours prêt à présenter une défense à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et c'est le même mot dont nous tirons le français « apologétique », parce qu'en grec c'est « apologia ». Et l'implication ici, tout comme pour les autres fois où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, est qu'en plus de connaître et de croire la vérité salvatrice de Jésus et de son expiation par substitution, les Philippiens peuvent également défendre cette vérité contre des mensonges contraires et les fausses doctrines. De plus, les Philippiens sont la confirmation vivante de l'évangile proclamé par Paul. Cela signifie que non seulement ils croient à ce que Paul leur a enseigné sur le sacrifice de Christ et sur la manière dont nous pouvons être sauvés, et ils peuvent le défendre contre toutes les autres opinions impies, mais qu'avec Paul, ils en démontrent la véracité par leur vie transformée. C'est un sceau, c'est le dernier mot. La seule autre fois où ce mot particulier est utilisé dans le Nouveau Testament, et dans Hébreux 6, il dit « Car les gens jurent par quelque chose de plus grand qu'eux, et dans toute leur dispute, un serment est définitif pour confirmation. » Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'un assentiment intellectuel, c'est une déclaration de fait indiscutable. Avec l'apôtre Paul, l'église de Philippe est entièrement consacrée à la cause de Christ. Et peut-être maintenant vous comprenez pourquoi il les aime tant. L'exemple à suivre ici est donc celui de la fidélité des Philippiens envers leurs frères et compagnons de service du Seigneur, ainsi que le message de l'Évangile lui-même. Quelles que soient les circonstances, par exemple l'emprisonnement, l'apôtre et l'Église de Philippe ont créé un précédent de fidélité constante à la vérité de Dieu. Et en parlant de vérité, examinons le principe suivant que Paul célèbre dans ce passage, versets 9 à 11. Je vais lire encore. « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ok, il se peut que ce soit l'un de ces moments américains dont j'ai parlé au début. Alors préparez-vous, préparez-vous. En tant que chrétien, c'est mon opinion, mon avis, que nous avons pris la fâcheuse habitude de placer l'amour à un rang plus élevé qu'il ne le mérite. Ou du moins notre conception de l'amour, et non celle de Dieu. Nous croyons souvent que l'amour signifie simplement être accommodant avec tout le monde, ou même simplement avoir des sentiments chaleureux. Un autre pasteur américain, affirme que le christianisme occidental croit à tort qu'il existe un 11e commandement. Tu seras gentil. Mais l'amour doit être célébré, bien sûr, et puisque la Bible en parle si souvent, nous devrions essayer de mieux le comprendre. C'est un principe fondamental de notre foi, et Jésus dit même que c'est l'amour qui distingue ses disciples du reste du monde. Il dit ça en Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais cet amour doit être défini par Dieu et non par nous. La Bible dit que l'amour est sacrificiel, obéissant et qui reflète le caractère de Dieu. Correctement illustré, l'amour chrétien, qui est toujours exprimé par des actions, imite l'amour du Christ. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, les gens citent régulièrement l'interaction de Jésus avec les pécheurs comme un exemple d'amour, comme dans Marc 2, Jésus mangeant avec les pécheurs, ou Jean 4 avec la femme samaritaine, ou Luc 19 avec Zacchée. Mais la Bible ne nous amène pas à croire que le simple fait de côtoyer des non-chrétiens est considéré comme un acte d'amour. Au contraire, dans chacun de ces scénarios, nous voyons Christ profiter de ces occasions pour dire à ces personnes la vérité sur son identité, l'identité du Christ, leur péché et leur besoin de salut. En fait, j'imagine qu'une grande partie de l'expression de l'amour de Christ serait considérée comme peu aimable par de nombreux chrétiens aujourd'hui, tout comme elle était à son époque, puisque plusieurs de ces conversations se sont terminées par le départ de personnes déçues ou voulant le tuer. Je voulais ajouter cette petite préface à cette section de notre texte aujourd'hui parce que, bien que Paul ne définisse pas explicitement le concept d'amour ici, il prie pour que Dieu permette aux Philippiens d'en avoir plus. Et si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, il devrait avoir une bonne idée de la nature de cette chose. Un autre exemple, si vous avez plus d'un enfant, comme nous, ou même simplement plus d'un frère ou d'une sœur, des sœurs, il vous est peut-être arrivé d'entrerompre une dispute entre eux et frustré de leur dire qu'ils devraient agir comme s'ils aiment les uns les autres. Et s'ils sont comme mes garçons, ils demanderont immédiatement pourquoi, peut-être comment, parce que c'est une demande très très vague. Est-ce que l'amour consiste simplement de ne pas frapper son frère au visage? Parce que pour mes enfants, c'est parfois le maximum d'amour qu'ils peuvent montrer. Vous savez. Donc, si nous avançons dans les versets suivants, nous verrons non seulement la raison de cet amour, mais aussi sa source. Parce que Paul prie pour que le fondement de cet amour soit la connaissance et, comme le dit la seconde 21, la pleine intelligence. Ou plus simplement encore, la sagesse, la perspicacité ou mon mot préféré, le discernement. Paul demande que l'amour des Philippiens, c'est-à-dire leur obéissance et leur imitation du Christ, augmente selon la vérité. Il ne s'agit pas d'un espoir arbitraire ou d'un souhait sans but. En d'autres termes, Paul souhaite que leurs actions bienveillantes reflètent la vérité de la révélation de Dieu. Mais attention, un autre moment américain. Nous devons nous garder de supposer que l'objectif final des prières de Paul est simplement l'amour. Cette idée a contaminé de nombreuses églises et a vu encore plus de chrétiens tomber dans le piège d'affirmer bêtement tout ce qui est enseigné au nom de l'amour. Kendall et moi, nous avons parlé ici avec des chrétiens qui se joignent volontiers avec, à l'Église catholique, l'Église catholique romaine, au nom de l'unité. Et on avait parlé avec d'autres qui ont permis à leurs enfants d'apprendre par quelqu'un américain, bien sûr, que Dieu leur donne une révélation spéciale au même niveau que l'écriture par le rêve. Tout comme aux États-Unis, beaucoup mélangent la persuasion culturelle avec ce que Dieu a clairement dit dans sa parole et au nom de l'amour, rejettent l'enseignement clair de l'écriture pour paraître plus sympathique. Alors, si ce n'est pas de l'amour sans raison, pour quelle raison Paul prie pour que cet amour augmente? Heureusement, il nous le dit. Verset 10, il prie pour que leur amour augmente afin qu'ils soient capables de connaître et d'affirmer ce qui est essentiel ou important. Il s'agit de la connaissance et de l'amour qui conduisent à la sanctification ou à la croissance spirituelle. Ce verset est très similaire à un autre passage écrit par Paul, ainsi qu'à l'encouragement de Pierre aux chrétiens souffrant de la diaspora dans sa première épître. Mais Paul a dit à l'église de Colossiens, « Par la mort de son fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, saint de faux et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Cet amour pour lequel Paul prie découle d'une juste connaissance de Dieu et a pour but de préparer les saints de Philippe à la gloire. Et au cas où quelqu'un penserait que nous devons créer cet amour en nous-mêmes, le verset 11 nous en dissuade. Il dit « Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Si vous êtes sauvés et donc habités par le Saint-Esprit, ce qui était certainement le cas des saints de Philippe, alors votre bon fruit vient du Seigneur Jésus. Les actes d'amour que nous accomplissons, les changements intérieurs que nous vivons, et même nos paroles viennent du Christ en nous. L'amour, le véritable amour, tel que le définit la Bible, ne peut en fait être produit que par le Christ en nous. La plupart d'entre nous connaissent le passage d'Isaïe qui dit que nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ou le reproche de Jérémie, quand il dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Seul l'Esprit de Dieu lui-même peut produire en nous ce qu'il exige de nous. Comme Samuel l'a prêché il y a quelques semaines, je pense 3 semaines maintenant, « Reposez-vous dans l'œuvre déjà achevée du Christ. » Et au lieu de vous battre pour atteindre ou gagner une position au ciel, obéissez à partir d'une position déjà acquise pour nous par Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Lorsque Paul prie ici pour les Philippiens, c'est presque comme s'il exprimait simplement une certitude, car comme il a écrit avant à l'église de Rome, c'est Romains 8, versets 28 à 30. Il dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Et voici, il s'appelle la chaîne d'or de la rédemption. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes, et ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. » En ce qui concerne Dieu, tant pour les Philippiens que pour nous, la prière de Paul a déjà été exaucée. Pour terminer, l'application pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, est que lorsque vous obéissez au Christ par votre amour et vos actes justes, Votre motivation doit venir de la vérité de Dieu dans le but de glorifier Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur, la bonne nouvelle est que si vous vous détournez de vos péchés et faites confiance au Christ, vous pouvez participer à cette même grâce. Pour nous tous, ces deux précieux principes que nous voyons applaudis par l'apôtre Paul, le partenariat et pas être spectateur, est une passion toujours grandissante pour Dieu et son Église, sont essentiels à rappeler et à imiter. Donc, je pense que nous avons bien commencé notre étude des Philippiens. Terminons par cette bénédiction. Il vient de Nombre, chapitre 6. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur vous, vers vous, et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Merci.